Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Je sais pas pour vous, mais parfois j'ai la sensation que les politiques ne défendent pas forcément les idées qu'on aimerait qu'ils soutiennent. Et on aimerait avoir un impact, on aimerait que ça bouge, et finalement, ça bouge pas tant que ça. Et c'est pour ça qu'on parle de lobby citoyen. Lobby, c'est un mot qui a l'air d'avoir une connotation négative, mais je reçois aujourd'hui Alberto Alemano, qui est un Italien et qui a créé The Good Lobby, donc qui est un lobby pour le bien. Donc ensemble, on va discuter de comment on peut avoir un lobby citoyen au niveau européen, mais aussi qu'est-ce que c'est que le bien, précisément, et comment on peut avoir un impact positif sur la planète et sur l'Europe. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour Alberto.
Bonjour.
Donc Alberto, donc t'es juriste. T'es prof à HEC et à NYU, donc à New York, de droit. Mais surtout, surtout, t'es un entrepreneur civique et t'as créé The Good Lobby. Et en fait, la première question que j'ai, c'est marrant parce que ce terme de lobby, je pense que dans l'imaginaire collectif, il a des connotations plutôt négatives. C'est-à-dire que quand on pense lobby, on pense pharmaceutique, on pense grosses entreprises, on pense pas à lobby citoyen. C'est quoi un lobby citoyen?
Et tout à fait, la connotation du terme lobbying est négative aujourd'hui. Lorsqu'on pense au lobbying, on pense justement à des activités des grands groupes industriels qui s'organisent. Mais en fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que le lobbying, ce n'est rien d'autre que la possibilité que n'importe quel acteur en société a d'exprimer des préférences. Mmh. Ce que les Américaines appellent « voice », donc avoir une voix, acquérir une voix. Et finalement, le lobbying, aujourd'hui, c'est une activité non seulement légitime, mais c'est une activité qui est également encouragée par les autorités publiques, à savoir la ville de Paris, la France, les gouvernements, l'Europe, veut que les citoyens puissent s'exprimer sur des nouvelles initiatives qu'ils pourront prendre. Comment la ville de Paris doit se positionner par rapport au changement climatique? Est-ce qu'il faut dépenser de l'argent public pour créer des pistes cyclables ou plutôt créer un parc public? Ou encore prendre des décisions plus radicales comme imposer un impôt à tous les titulaires d'une voiture qui rentrent en ville? C'est des choix des politiques publiques, comme il y en a beaucoup, qui existent au niveau local, au niveau national, au niveau européen, par rapport auxquels les institutions aujourd'hui demandent aux citoyens d'exprimer leurs préférences. Et lorsque les citoyens font ça, ils font du lobbying. Pourquoi ils font du lobbying? Parce que finalement, ils sont en train d'influencer un processus décisionnel qui touche à une politique publique qui change leur vie et qui va déterminer la qualité de leur vie, leurs possibilités, les chances de leurs enfants, de leur famille, de s'épanouir. Donc, mon objectif avec The Good Lobby, c'est tout d'abord de démystifier les lobbying. Les lobbying comme une pratique de démocratie citoyenne. N'importe quelle personne peut le faire, de communiquer, en fait c'est même un droit et presque un devoir, de communiquer avec nos décideurs. Ça peut être le maire même, ça peut être un conseiller municipal, ça peut être un adjoint, ça peut être un ministre, ça peut être un élu, n'importe à quel niveau. Et nous, on aime bien travailler avec l'Europe. Parce que l'Europe est beaucoup plus sensible, on ne le dirait pas, hein, mais elle est beaucoup plus sensible à tout appel, à toute voix qui provient des citoyens. C'est vraiment contre-intuitif, mais si on envoie un courriel, un email à un fonctionnaire européen, il est censé nous répondre dans les 15 jours. Lorsque j'envoie un mail à Bercy, ou encore à notre ministère ici en France, ou parfois j'attends des mois. Et donc finalement, les vrais paradoxes, les lobbying aujourd'hui, c'est quelque chose que n'importe qui peut exercer, et notamment, on peut attirer l'attention de l'Union européenne, des non-représentants politiques et des institutions européennes, afin qu'ils puissent résoudre des problèmes locaux. Parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui en Espagne, je vous donne un exemple, que c'est l'accès au réseau des Wi-Fi, c'est les mêmes problèmes qu'on a en France, dans les zones rurales, ou en Finlande, ou encore au Portugal. Eh bien, ce problème-là, qui est très local, est un problème commun par rapport auquel, si nous, citoyens, on s'organise, on pourra obtenir des interventions et des nouvelles politiques qui vont résoudre le problème. Donc un nombre grandissant des gens pourront avoir accès aux télécoms, aux téléphones, accès aux données, ce qui aujourd'hui est assez discriminatoire.
Mais alors du coup, les élections européennes, là on est vendredi, pour être tout à fait transparent, donc les élections européennes, elles n'ont pas eu lieu, elles ont eu lieu dimanche. Je ne sais pas précisément, mais a priori le taux d'abstention va être hyper fort. Est-ce que l'idée, c'est pas, quand on vote, est-ce que ce n'est pas ça qu'on fait déjà finalement? Alors pourquoi créer un lobby supplémentaire?
Les votes ne suffisent plus parce que la démocratie représentative aujourd'hui a montré ses limites, à savoir la démocratie ne peut pas tout simplement se réduire en vote tous les 5 ans, tous les 4 ans. Il faut que le système politique même évolue, ne peut pas rester les mêmes qu'on a eu pendant des siècles, et qu'on puisse créer des opportunités de participation qui vont au-delà du vote. Donc les votes, c'est vraiment la première forme d'engagement, quelque chose qu'il faut faire, qu'on continuera à faire dans l'histoire, mais ça ne suffit pas non seulement d'un point de vue de la perspective des citoyens, mais comme je disais tout à l'heure, même de la perspective du décideur. Les décideurs ont besoin de rester en contact avec ses citoyens. En France, c'est un cas assez emblématique parce que la classe politique est très détachée et très lointaine par rapport à la population. D'ici les mouvements des Gilets jaunes, qui a en fait eu la force de mettre sur la table un vrai problème, le décalage existant entre la classe politique comme une communauté à part de la société même. Donc il faut créer des nouveaux canaux de participation, et ces canaux de participation pourraient prendre la forme des lobbying, parce que c'est un outil qui est déjà à disposition, mais qui tout simplement on n'exerce pas, on ne le fait pas assez. Mais lorsqu'on les fait, on peut obtenir des résultats.
Mais alors, c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que les gens, quand ils ne vont pas voter, qui vont pas voter ou qui votent blanc, c'est justement parce qu'ils voient pas de résultat. C'est-à-dire que on vote pour un parti, puis finalement, il applique un programme qui est pas du tout celui qu'il avait dit pour se faire élire. Voire il y a un autre souci qui est la manipulation, et on voit que les partis extrémistes s'engagent. Enfin, les gens qui votent ce genre de parti, en tout cas, s'engagent beaucoup plus que les gens qui sont plus démocrate, on va dire. Donc il y a ces deux choses qui sont...
Tout à fait. Je pense qu'il y a un problème de rédévabilité, il y a un problème de responsabilité. Aujourd'hui, il est très difficile pour un citoyen de savoir quel est l'impact que son vote va avoir dans les systèmes politiques. Il y a pas mal d'études dans la littérature de la politologie, politologie américaine, qui démontrent comme les votes individuels a un impact qui est statistiquement non significatif. Donc, n'échange pas finalement la direction des choses. D'ici la nécessité de rendre la démocratie représentative, les votes, démocratie électorale, on pourrait l'appeler, avec des formes complémentaires d'engagement, parmi lesquelles les lobbying citoyens. C'est une façon de s'assurer que les élus restent sous contrôle. Donc on leur rappelle, après les avoir votés, qu'ils étaient quand même censés faire quelque chose vis-à-vis de nous. Et si nous avons des idées qu'eux-mêmes n'ont pas eues, ou elles-mêmes n'ont pas eues, on pourra partager ces idées. Et ça, c'est vraiment l'idée clé du lobbying citoyen. La possibilité d'attirer l'attention de nos décideurs à des questions sociétales qui existent en société, mais que les systèmes politiques n'ont pas réussi à capturer. Je vous donne un exemple. En 2012, lorsque j'ai commencé